Jour aujourd'hui en ce 4 août, c'est la fête du Saint-Curé d'Ars, Saint-Jean-Baptiste Marie Vianney. Mais c'est aussi la fête d'un quasi-québécois, mon père Frédéric, qui était français d'origine en fait, né dans les Flandres françaises. Il était d'origine flamande aussi en même temps. Et alors donc, nous allons parler de ces deux hommes remarquables, mais malheureusement encore des prêtres. Mais hier, je vous ai bien parlé d'une mère de famille, n'est-ce pas? Alors, j'essaie de puiser ici et là, mais aujourd'hui, on ne peut pas négliger de parler du curé d'Ars et du bon père Frédéric. Hein. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, je commence par le père Frédéric, qui est un franciscain, né en France, comme je viens de vous le dire, et mort en odeur de sainteté sur le boulevard René-Lévesque, au couvent des franciscains qu'il y a là, pas loin de la Plaza Alexis-Nion, de la rue Atwater. Et il considérait vraiment le Canada, le Québec, comme son pays d'adoption, où il a passé les 28 dernières années de sa vie. Hein. Il a donné là le meilleur de lui-même. Je prends mes renseignements dans un livre du frère Gérard Champagne. Le père Frédéric est né le 19 novembre. Un scorpion, quoi, pour ceux qui s'intéressent au zodiaque. Le 19 novembre 1838, on dit que les scorpions ont un tempérament de feu, et ça peut être aidé à ce qu'ils deviennent cet homme extraordinaire qu'il est. Donc, il est né à Guiveld. C'est un petit village de la Flandre française, comme je vous ai dit, situé à 2 milles de la mer du Nord, là, sur la frontière de la Belgique, tout près de la Belgique. Hein. Il a reçu au baptême le nom de Frédéric, qu'il a gardé en religion. Il a reçu une éducation foncièrement chrétienne. Vous savez que, je le répète, les enfants sont marqués par l'éducation qu'ils reçoivent, et il est très, très, très important de les influencer délicatement, avec intelligence et avec respect de leur liberté. Il a gardé toute sa vie une grande vénération pour sa mère, qui était un modèle de piété et de vertu, comme souvent les mères de famille l'étaient à l'époque, et j'espère qu'elles le redeviendront de plus en plus ici chez nous. Hein. Et après avoir fréquenté l'école de son village, ben il a fait des études pour être prêtre. D'abord, il est allé au collège de Notre-Dame à Dunkerque, et il a eu beaucoup de succès. Il était brillant, un élève brillant. Et dès le début, il a mis sa vie, selon la spiritualité de l'époque, sous le signe de la croix. C'est une très belle spiritualité lorsqu'elle est pleine d'amour, je vous le répète. Je ne cesserai jamais de vous répéter ça, car c'est très important. L'amour au creux de la croix. Et nous en parlerons beaucoup avec le Saint-Jean-Baptiste Marie Vianney, curé d'Ars tout à l'heure, qui a développé une spiritualité très en avance sur son temps et magnifique. Frédéric a perdu son père à l'âge de 9 ans, comme mon pauvre petit-fils Pascal, qui est ici aujourd'hui encore à Radio Ville-Marie et qui est si gentil. Il a perdu à l'âge de 9 ans son père l'an dernier, mon fils adoptif. Et puis, ça l'a marqué, et j'espère qu'il a passé à travers son deuil, ce bon Frédéric Jansson, de la même façon que mon petit-fils. Il a vu sa famille tomber dans la détresse financière, cependant, et pour subvenir aux nécessités de sa pauvre mère, bien, notre jeune Frédéric, qui aspirait au sacerdoce, a dû interrompre brusquement ses études secondaires au collège de Dunkerque et de s'engager comme commis-voyageur dans une petite ville. Commis-voyageur, oui, où il a travaillé pendant 8 ans, donc un saint pour être patron des commis-voyageurs. Il a donné les preuves de son savoir-faire puis l'exemple de toutes les vertus possibles, disait-on. Il était remarquable par son équilibre et sa grande bonté. Non pas qu'il n'ait pas eu de défauts au fond de son être, mais il avait su déjà lutter contre eux et devenir quelqu'un d'équilibré. Et à la mort de sa mère, qui est survenue le 5 mai 1861, eh bien, il a laissé libre cours à ses désirs de prêtrise, et puis là, il a parachevé ses études classiques, Et en juin 1864, à 26 ans, il est entré au noviciat des franciscains d'Amiens. Connaissez-vous Amiens? Oh, il y a une cathédrale, là, du 13e siècle, qui est un chef-d'œuvre gothique. C'est la plus vaste église de France. C'est immense. C'est au nord de la France, c'est non loin de la Belgique, là où il est né. Et il a fait un noviciat de sainteté qui a ébloui ses confrères. Et en religion, il a conservé, comme je vous ai dit au début, son nom de baptême, frère Frédéric, ce qui était assez rare. Hein. Habituellement, les religieux changeaient de nom au moment où ils recevaient l'habit. Et alors, son noviciat fervent lui a permis d'entreprendre des années, ce qu'on appelle de scolastica. C'est le temps où les religieux font des études. Et il s'est montré toujours, comme au début, dans sa jeunesse, un étudiant appliqué, consciencieux et pieux, toujours. Il a fait sa philosophie à Limoges. C'est au centre-ouest Limoges, n'est-ce pas? Sa théologie à Bourges. À Bourges, il y a l'une encore des plus belles cathédrales gothiques. Saint-Portail à cette cathédrale, je me souviens de l'avoir visité. J'avais rencontré là des gens qui m'avaient donné l'hospitalité. Oh, des Français merveilleux. Une mère qui m'avait invité chez elle pour que j'essaie d'aider son fils qui avait perdu la foi. Et il y avait 5 portails, 5 nefs. Mais pas il y avait, il y a toujours dans la cathédrale de Bourges. Alors il était ordonné prêtre à Bourges, dans cette cathédrale magnifique, le 17 août 1870. Et là, il a élu comme pays d'adoption la Palestine. Oui, oui. C'est une circonstance providentielle qui lui a permis de réaliser un vieux rêve. Vous savez que les franciscains sont gardiens depuis 8 siècles des lieux sacrés en Terre Sainte. Hein? Et alors, il a quitté Paris pour Jérusalem le 9 mai 1876, et pendant 12 ans, il a été au service de ce qu'on appelle la custodie. Quand on voit ça, ce mot-là, custodie, chez les franciscains, c'est que la custodie, c'est le gardiennage. On appelle les franciscains qui ont une certaine autorité un custode, et là, bien, en particulier en Palestine, c'est la custodie, c'est tous ces franciscains qui étaient très nombreux à l'époque. Mon Dieu, il y en avait je ne sais combien de centaines, 350 religieux, hein, franciscains, ils étaient très nombreux dans ce temps-là, en Terre Sainte. Il a été plus d'un an en Égypte comme prédicateur. Ça peut surprendre aujourd'hui l'Égypte, mais vous savez qu'il y a quand même plusieurs millions de chrétiens en Égypte, toujours, qui ont résisté à l'envahissement musulman depuis des siècles et des siècles et des siècles. On les appelle les Coptes. Ils sont parfois persécutés. Ils l'ont été encore il n'y a pas si longtemps. Leur pape Chénouda, le pape des Coptes séparés de l'Église, de la grande Église, tant orthodoxe que catholique, a été enfermé dans un monastère pendant des années. C'est terrible. Et alors donc, il a été prédicateur, puis il a aussi été aumônier d'un grand collège chrétien où on accueillait beaucoup de musulmans, au Caire. Mais le reste du temps, sur les 12 années, là, il était en gardien en Palestine. En 1878, il était même vicaire custodial, comme on dit. Et ce poste, le plus haut qu'on peut obtenir en Terre Sainte, pour un franciscain français, faisait donc de notre bon père Frédéric un personnage considéré. Même pour, à l'époque, c'était important, là, les honneurs, la préséance, il recevait tout ça, et ça le gênait, car il avait une grande humilité. Il est devenu le premier assistant du custode, donc le second dignitaire de la custodie franciscaine. Et je vous rappelle, ils étaient 350 religieux, c'est donc des responsabilités énormes. Hein. Cette fonction, habituellement, c'est pour 6 ans, mais le bon père Frédéric l'a prolongé dans un second terme, jusqu'à son deuxième voyage. Et son deuxième voyage et son retour définitif, là, au Canada, en 1888, car il était déjà venu en 1881 pour quêter pour la Terre Sainte, pour la Palestine, Israël aujourd'hui. Il était resté parmi nous en 1881 et 82, 8 mois. Il avait déployé une activité extraordinaire. Il n'y avait pas, dans ce temps-là, de franciscains ici. Ils étaient disparus à la fin du 18e siècle à cause de la conquête anglaise et ils n'avaient pas pu se recruter. Ils ne se sont établis de façon définitive chez nous qu'en 1890. Donc, notre bon père Frédéric, en 81 et 82, a quitté. Et sa prédication, ses écrits ont ébloui beaucoup, beaucoup de Québécois. Il est revenu définitivement, donc, en juin 88. Il a été l'un des trois témoins du fameux prodige. Vous souvenez-vous de ça? C'est les yeux d'une statue. Bon, prenez-le pour ce que ça vaut. Si vous voulez pas y croire, n'y croyez pas. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas un dogme de foi. Hein? La statue de Notre-Dame du Rosaire au Cap de la Madeleine, selon des témoins sérieux, aurait ouvert les yeux, il aurait été témoin, lui, il a affirmé avoir été témoin de ce prodige étonnant et qui encourageait les gens à fréquenter et mieux établir la dévotion à la Vierge, Notre-Dame du Rosaire, au Cap de la Madeleine, près de Trois-Rivières. Un seul titre suffirait d'ailleurs à la gloire du Père Frédéric, apôtre de Notre-Dame du Cap de la Madeleine. Monseigneur Cloutier avait déclaré, c'est le révérend père Frédéric qui en grande partie a lancé l'œuvre de Notre-Dame du Rosaire au Cap de la Madeleine. Pendant 14 ans, en tout cas, des circonstances providentielles en ont fait le prophète de Notre-Dame du Cap. En 1904, il a même contribué au couronnement de cette statue, Notre-Dame du Cap. Il n'y a pas là de paganisme ni d'idolâtrie. C'est une vénération que l'on porte à la Vierge dans une image qu'on a d'elle. Un peu comme quand on met un bouquet de fleurs près de la photo de sa mère décédée que l'on garde chez soi. On sait bien que c'est pas notre mère qui est sur la photo. Mais par ce geste, on vénère notre mère et les catholiques ou les orthodoxes font la même chose. Et les anglicans aussi, d'ailleurs, ont des statues dans leurs églises. Et c'est une vénération qui n'a rien d'idolâtrique, hein, je le répète. Car j'entends ça parfois en onde, des gens un peu sectaires, appartenant à des petites sectes où sont pleins de ferveur, où ils croient sincèrement avoir trouvé Dieu, etc. Dans toute sa pureté, eh bien, ils rejettent toutes les images et tout. Je les comprends jusqu'à un certain point, mais je crois qu'il faut aussi comprendre pourquoi les grandes églises chrétiennes, tant orthodoxes que catholiques et anglicanes et quelques autres, vénère ainsi des images des saints, ou du Christ lui-même. Et en 1904, donc, c'est une grande fête pour Notre-Dame du Cap, le couronnement, et le 4 août 1916, le père Frédéric est mort à Montréal, donc, sur le boulevard René-Lévesque, on appelait ça le boulevard Dorchester dans le temps, chez les franciscains, là. Il est mort en odeur de sainteté à l'âge de 78 ans. Mais son corps n'est pas inhumé là, il est inhumé à Trois-Rivières chez les franciscains et sa cause, qui est introduite à Rome, les faveurs nombreuses attribuées à ce bon père ont permis pour lui d'être béatifié, si je me souviens bien, n'est-ce pas? Et alors, je vous signale que les franciscains ont été, avant les jésuites, les évangélisateurs des Amérindiens chez nous. Et au Québec, il y avait tellement de tertiaires franciscains au siècle dernier que dans certaines paroisses, presque tout le monde revêtait l'habit des laïcs franciscains pour certaines réunions de prière. Le père Frédéric, attaché ici au Québec, a fait énormément par sa prédication et par sa sainteté pour renouveler l'Église québécoise au 19e siècle. Il est mort le 4 août. Nous célébrons donc son entrée au ciel aujourd'hui. Sa grande naissance avec un N majuscule. Comme je disais à ma mère, c'est le plus beau jour de notre vie. Elle n'aimait pas ça au début, mais elle a fini par comprendre. Le 4 août 1859. À 2 heures du matin, il est mort dans la cure de sa petite paroisse, à peu près à 9 kilomètres de Villefranche. Il avait 73 ans. Et c'est pas tellement loin d'Annecy, de Chambéry, D'ailleurs, on appelle ça Ars en Dombes. Dombes, c'est une région de France terrible. Je suis déjà allé. C'est plat, 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 et c'est rempli de marais. C'est là que les trappistes au 19e siècle ont fondé une trappe, et pour assécher les marais, ils ont perdu environ 70 moines qui ont attrapé des maladies terribles et en sont morts. C'est terrible ce qui se passe comme ça dans l'établissement de ces trappes où les trappistes à l'époque, ou les cisterciens très sévères, ils l'étaient autrefois, voulaient assécher comme ça des terres pour permettre à des gens de s'établir autour d'eux et de mieux vivre. En mourant, le curé d'Ars avait dit « c'est ma pauvre faim ». Il m'avait dit ça quelques jours plus tôt. Il y avait des centaines de pèlerins qui se pressaient aux portes du presbytère, qui voulaient une ultime bénédiction pour eux-mêmes, pour un chapelet, pour une médaille, pour une image. Car les gens ont souvent une foi très naïve et très simple, mais qui peut être très belle au creux de ces choses qui peuvent nous écarter d'eux. Les gens d'Ars, les paroissiens, les écartaient. Ils disaient, il était notre curé avant d'être le vôtre. Ils étaient fiers de leur curé. Il l'a été pendant 41 ans, curé de cette même paroisse, avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. C'était pas facile. C'est très difficile d'ailleurs d'être curé de paroisse. Mettez-vous bien ça en tête, que les curés de nos paroisses ont 1000 problèmes, beaucoup plus qu'on ne pense. La rumeur collective, par toute la France, considérait le curé d'Ars comme un saint. Il avait été un confesseur extraordinaire, un thaumaturge, un visionnaire. Mais pourtant, c'était un homme en apparence de rien du tout. De rien du tout, en apparence. On lui demandait « qu'est-ce qu'un prêtre ?» Il disait « un homme qui tient la place de Dieu, un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. Et si je rencontrais un prêtre et un ange, eh bien je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange. » Et je crois qu'il avait parfaitement raison. Mettons-nous bien ça dans la tête. Rappelons-nous cette parole du curé d'Ars, il disait pas ça parce qu'il était prêtre lui-même, il était d'une très grande humilité. Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange. Il a adhéré de toutes ses fibres, toutes les fibres de sa sensibilité, de son intelligence, à une conception qui peut nous étonner aujourd'hui, mais qui était profondément sacerdotale, cléricale de la vie religieuse. Et je ne crois pas qu'il ait eu tort. Plus je vieillis, plus je me rends compte que si nos prêtres n'étaient pas là, nous n'aurions presque rien. Nous serions dépourvus, un peu comme ces Japonais qui n'ont pas eu de prêtre pendant des siècles, et dont la foi vibrante encore au milieu du 19e siècle s'était grandement atténuée, il ne restait presque plus rien. C'était un fils de paysan, et dès l'enfance, il était presque continuellement occupé à prier. Il ne concevait pas de foi sans l'Église, ni d'oraison ou de prière sans clergé. Là où il n'y a plus de prêtre, disait-il, il n'y a plus de sacrifice, et là où il n'y a plus de sacrifice, le sacrifice de la messe, s'entend, il n'y a plus de religion. Il disait, laisser une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Est-ce que c'est vrai? Je penserais que oui. Il disait d'ailleurs, j'ai un beau texte de lui, « Qu'est-ce que le prêtre? Un homme qui tient la place de Dieu, un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. Allez, dit notre Seigneur au prêtre, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, instruisez toutes les nations. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous méprise, me méprise. » Lorsque le curé d'Ars continue en disant, lorsque le prêtre remet les péchés, il ne dit pas « Dieu vous pardonne », il dit « Je vous absous ». À la consécration, il ne dit pas « C'est le corps de notre Seigneur », il dit « Ceci est mon corps ». Qui est-ce qui a mis notre Seigneur là, dans le tabernacle? C'est le prêtre. C'est très beau ce texte du curé d'Ars. Qui est-ce qui a reçu votre âme à son entrée dans la vie, le prêtre? Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage, le prêtre? Qui préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre, toujours le prêtre. Et si cette âme vient mourir, qui la ressuscitera? Qui lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Vous ne pouvez vous rappeler un seul bienfait de Dieu sans rencontrer, à côté de ce souvenir, l'image du prêtre. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. Le prêtre ne se comprendra que dans le ciel. Si on le comprenait sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d'amour. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui. Il n'est pas pour lui, il est pour vous. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Laissez une paroisse maintenant sans prêtre, on y adorera les bêtes. Vous direz que c'est exagéré. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Né 3 ans avant que n'éclate la grande révolution, en 89, Jean-Marie a 8 ans, déjà, lorsque l'église de son village de Dardilly, aux portes de Lyon, est fermée au culte. Il est le 4e enfant d'une famille de cultivateurs, relativement aisée, mais d'une piété peu commune. La ferme Vianney a abrité d'ailleurs sous sa grange une nuit de juillet, presque 20 ans plus tôt, le fameux saint Benoît Labre, dont je vous parlerai avec grand plaisir un jour. Un itinérant très pauvre et qui a été canonisé. L'Église aime aussi les plus pauvres, elle canonise des rois, mais elle canonise aussi des pauvres. Le jeune garçon solitaire qu'était Jean-Marie Vianney était sensible, profondément religieux. Comme tous les siens dans sa famille, il était fidèle à ce qu'on appelle l'ancien clergé sous la Révolution, car il y avait ce nouveau clergé qui avait prêté un serment qui n'était pas accepté par les autorités. Un serment à l'État. Il a partagé les souffrances de l'Église persécutée sous la Révolution. Il a partagé la ferveur des assemblées clandestines. Ses parents, d'ailleurs, ont caché parfois sous leur toit des missionnaires. Il y avait un monsieur Grobos, un prêtre, qui l'a confessé pour la première fois à 11 ans seulement. Il n'avait pas fait de confession avant. Il l'a fait communier à 13 ans seulement. C'était terrible, la persécution. Et le futur curé d'Ars, qui a ignoré la passion politique, mais a puisé la fermeté de sa foi, son élan missionnaire dans son cœur, là, pour la reconquête des âmes au cru de cette révolution. C'est l'un des aspects les plus remarquables de sa personnalité. Il lui faudra 10 années, cependant, pour réaliser son vœu, devenir prêtre à son tour. Ces 10 années de patience et de confiance, de labeur ingrat et d'efforts acharnés, ne compte pas, pour la moindre part, dans la sainteté de ce futur curé d'Ars. Il avait une instruction bien sommaire, connaissait un peu la lecture, l'écriture, un peu de calcul. Il avait appris ça auprès de son instituteur du village. D'ailleurs, il était à 7 ans, berger du troupeau de son père. À 14 ans, il était employé à plein temps au travail de la terre. Il n'a pas pu s'instruire. Et à l'automne de 1805, quand il avait 19 ans passé, il a été confié au curé du bourg voisin d'Écully, qui a créé à demeure une école de prêtres, où étaient préparés au lendemain de la Révolution les très rares candidats au sacerdoce, comme aujourd'hui il y a si peu de candidats au grand séminaire. Priez pour les vocations, il le faut, hein. Donc, c'était un jeune élève timide, gauche, un peu honteux de son âge et de ses lacunes. Il avait près de 20 ans. On a tant écrit, d'ailleurs, sur la simplicité, sur l'ignorance du futur curé d'Ars, mais je n'en suis pas si sûr. Il maîtrisera véritablement le latin d'Église, cette langue savante, un peu plus tard, mais il n'y arrivera vraiment jamais. 20 ans plus tard, d'ailleurs, dans les années 30 du 19e siècle, lorsque les séminaires regorgeront de recrues, puis que les cures seront toutes pourvues de curés, bien, il n'aurait jamais pu recevoir le sacrement de l'ordre s'il avait été dans les années 30, mais c'était beaucoup plus tôt. Il manquait tellement de prêtres qu'il est devenu prêtre, lui, à la faveur du malheur des temps. du manque de vocation. Il fallait combler des vides. Il a été ouvrier à l'aube de la paix qui devait régner au lendemain de la Révolution. Son maître, ce prêtre extraordinaire qui s'est occupé de lui pour le former, ne favorisait évidemment pas la sainte ignorance, comme on dit parfois dans certains milieux, loin de là. Et l'ordination au sacerdoce de Jean-Baptiste Marie Vianney, c'était le fruit d'un très long travail, d'abord sur lui-même, mais aussi le travail de ce prêtre étonnant, qui était le curé d'Écully. Le curé d'Ars, d'ailleurs, disait de ce prêtre qui l'avait formé, « J'ai connu beaucoup de belles âmes, mais je n'en ai pas connu de plus belles. » Un prêtre, au fond, qui engendre un autre prêtre, et c'est souvent comme ça dans l'histoire de l'Église, les prêtres s'engendrent les uns les autres. D'ailleurs, quand il est mort en 1817, en décembre 1817, ce curé d'Écully, M. Ballet, a légué au futur curé d'Ars ses instruments de pénitence, oui, ses instruments de pénitence et ses livres, et puis encore une règle de vie, d'état et de sainteté. Bon, c'était un prêtre un peu coincé, c'était un ancien chanoine régulier, un génovéfin, faudrait que je vous explique ça un jour. C'est un ordre disparu, disons chanoine régulier. C'était un prêtre quand même savant, assez instruit. Il y avait eu un frère chartreux qui a été guillotiné pour sa foi pendant la Révolution. Il était missionnaire clandestin. C'était un prêtre un peu sévère. Ça avait marqué le curé d'Ars au début. Mais vous verrez petit à petit comme le curé d'Ars s'ouvre à une foi et très, très belle. Donc, ce curé l'a fait admettre à l'automne de 1813 au grand séminaire de Saint-Irénée. Et puis, il a été chassé de ce séminaire 2 mois plus tard parce qu'il était, dit-on dans les textes, on les a, les documents, « debilissimus », c'est-à-dire « nul » en latin, « impropre à l'étude ». Alors, M. Ballet, ce curé d'Écully, l'a encouragé. Il s'est porté garant de lui. C'était formidable. Il a vraiment tout fait. Et Jean-Baptiste Marie Vianney a finalement été ordonné prêtre à Grenoble, des mains de l'évêque Simon, qui a su comprendre le curé d'Ars, le 13 août 1815, et il avait 29 ans. Ce jeune prêtre, donc, tout frais, a achevé sa formation, qui était jugée insuffisante, auprès de ce curé d'Écully, M. Ballet, qui l'a demandé de l'avoir comme vicaire. Et c'est donc là, dans la paroisse d'Écully, que Jean-Baptiste Marie Vianney apprend à dire la messe, à donner les sacrements, à prêcher, à catéchiser, à confesser, à remplir là, avec conscience et application tous les devoirs d'un prêtre. Les deux prêtres ensemble, l'un jeune encore, puis l'autre âgé, là, qui meurt quelque temps plus tard, eh bien, partagent le même projet de sanctification, comme prêtre. Et M. Ballet trace l'exemple à Jean-Baptiste Marie Vianney. Et c'est dans les rigueurs de l'ascétisme, ils n'y vont pas de main morte. J'ai déjà prêché une retraite dans une paroisse, oh je le dis, à Saint-Anselme de Dorchester, et je voyais ces prêtres à 7 heures le matin, devant Saint-Sacrement, récitant l'office avec la ménagère, près du tabernacle, priant. Ça existe au Québec, ça existe. Des gens qui savent prier ensemble constamment. J'étais dans d'autres paroisses aussi, et c'était merveilleux de voir les prêtres ici à Montréal qui me demandaient, pendant les retraites que je prêchais, de prier avec eux. Et ils se réunissent, ils prient vraiment. Et alors, le projet de sainteté comme prêtre, ou de sainteté sacerdotale, que Jean-Baptiste Marie Vianney, après sa mort, la mort de son maître, a tenté de prolonger, de réaliser dans la paroisse qui lui a été confiée, en février 1818, mais c'est à Ars qu'il l'accomplit. Il dit, « Je désire une paroisse petite que je pourrai mieux gouverner et où je pourrai mieux me sanctifier. » Et là, la paroisse tout entière doit être transformée et renouvelée par lui. Un témoin disait, il nous disait fréquemment, « Oh, mes frères, cherchons à aller tous en paradis. Là, nous verrons Dieu. »
Que nous serons heureux. Nous irons en procession si la paroisse est sage, et votre curé sera à votre tête. Il était jeune. Et le poste de cette paroisse n'était pas envié du tout, ni enviable. C'était dans la dôme dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des étangs qui transportaient des fièvres malignes, qui étaient mortelles. C'était tragique. Il fallait pas vraiment avoir peur. D'ailleurs, il enseignait le signe de la croix et le signe du chrétien. Il faut le faire au commencement de ses prières et de ses actions, et quand on est tenté d'offenser Dieu. Le signe de la croix est redoutable aux démons, puisque c'est par la croix que nous lui échappons. Il faut faire le signe de la croix avec un grand respect. Écoutez bien ça, il ajoute, on commence par la tête, c'est le chef, la création, le Père. On continue par le cœur, la conversion. On finit par les épaules, la force de l'homme, le Saint-Esprit. Tout nous rappelle la croix. Nous-mêmes, nous sommes faits en forme de croix. C'est simple. C'est une catéchèse très simple. Mais c'est une catéchèse qui rejoint le monde. La commune d'Ars comptait, en 1806, 230 habitants seulement. Tout petit. Hein? Elle en comptera 337 au recensement de 1836, après un certain temps de ministère. Lorsque M. Vianney, donc, fit son entrée dans la paroisse, nous raconte un demi-siècle plus tard Guillaume Villiers d'Ars. Il nous parut d'abord plein de bonté, de gaieté et d'affabilité, mais jamais nous ne l'aurions cru si profondément vertueux. Nous avons remarqué qu'il allait souvent à l'église et qu'il y restait longtemps. Le bruit ne tardait pas à se répandre, qu'il menait une vie très austère. Il n'avait point de servante, n'allait point dîner au château comme son prédécesseur, n'allait pas visiter ses confrères et ne les recevait pas chez lui. Oh, ce qui nous frappait aussi beaucoup, c'est qu'on s'est aperçu, tout d'abord, qu'il ne gardait rien. Nous étions ravis d'une conduite aussi peu commune, et nous disions dès lors, « Notre curé n'est pas comme les autres, c'est un saint. » Le curé d'Ars disait d'ailleurs, « Il y a deux manières de souffrir. Souffrir en aimant et souffrir sans aimer. » C'est très important ce qu'il dit ici. Écoutez bien ça. Les saints souffraient tout avec patience, joie et persévérance parce qu'ils aimaient. Imaginez, il disait ça déjà au milieu du 19e siècle, où l'enseignement souvent nous disait qu'il fallait souffrir pour plaire à Dieu. Mais lui, il dit, les saints souffraient tout parce qu'ils aimaient. Nous souffrons, nous, avec colère, dépit et lassitude, parce que nous n'aimons pas. Oh, si nous aimions Dieu, nous aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous plairions en elles, nous serions heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. Oh, que les âmes qui sont toutes à Dieu dans la souffrance éprouvent de douceur. Mettez du beau raisin sous le pressoir. Il faisait souvent des comparaisons comme ça, un peu comme Jésus avec ses paraboles. « Mettez du beau raisin sous le pressoir, il en sortira un jus délicieux. Notre âme, sous le pressoir de la croix, produit un jus qui la nourrit et la fortifie. Lorsque nous n'avons pas de croix, nous sommes arides. Si nous les portons avec résignation, nous sentons une douceur, un bonheur, une suavité. C'est le commencement du ciel, disait-il. Et c'est très exact, nous avons tous à souffrir. Qui ne souffre pas? Mais si nous souffrons avec amour, simplement dire, « Mon Dieu, au cru de cette souffrance qui m'accable, je t'aime, et je sais que tu m'aimes. » Et la paix s'installe dans nos cœurs. L'abbé Vianney, le curé Vianney, conserve donc d'une enfance paysanne cette espèce de familiarité à la vie et aux gens de la campagne. C'est ce qui lui permet de leur parler simplement. Il y avait une politesse attentive, discrète. Il y avait des manières simples qui lui ont gagné tous les cœurs. Oh, les moyens qu'il utilisait pour convertir tout le monde, et le succès même de toutes ces conversions qu'il a remportées, ne se comprennent qu'à la lumière de cette perception particulière de la sainteté. Il allait souvent à l'église et il y restait longtemps, nous rapportent des témoins. C'est dans l'Eucharistie, dans la méditation et la contemplation du sacrifice de Jésus-Christ qu'il faut chercher le fondement le plus authentique, premier de la piété personnelle de M. Vianney. D'ailleurs, Il a écrit des textes absolument superbes là-dessus. Il écrit, ou il avait dit, il a prêché, « Avons-nous médité sur l'amour dont était dévoré le cœur du saint vieillard Siméon dans son extase ? Il avait demandé au bon Dieu de voir le sauveur d'Israël, et le bon Dieu le lui promit. Il passa 50 ans dans cette attente, appelant Jésus de tous ses vœux, se consumant du désir de le contempler un instant. Et lorsque Marie et Joseph l'apportèrent au temple, Dieu lui dit, « Le voici !» Et prenant alors l'enfant Dieu dans ses bras, il le pressa sur son cœur enflammé et brûlant d'amour. Et ce bon vieillard s'écria avec transport, « Maintenant, Seigneur, laissez-moi mourir, puisqu'il m'a été donné de contempler mon Dieu et mon Sauveur. » Puis, il rendit Jésus à sa mère. Il ne put le garder qu'un instant. « Mais nous, mes frères, ne sommes-nous pas bien plus heureux que Siméon ? Nous ne l'avons pas que pour un instant. Nous pouvons le garder toujours si nous voulons. Il ne vient pas seulement dans nos bras, mais dans notre cœur. Oh, homme, que tu es heureux, mais que tu comprends peu ton bonheur. Si tu le comprenais, tu ne pourrais pas vivre, tu mourrais d'amour. Ton Dieu se donne à toi. » Écoutez bien, ça c'est très important. Pourquoi n'allons-nous pas à la messe tous les jours quand on peut? « Ton Dieu se donne à toi, se fait ta nourriture. Tu peux l'emporter si tu veux. » Il ne fait plus qu'un avec toi. Ô bonheur immense, ô heureuse vie, se nourrir d'un Dieu. Que c'est beau. Il ajoute d'ailleurs, un dimanche de Pâques après la Sainte Communion, Sainte Thérèse d'Avila fut ravie en Dieu. Étant revenue à elle-même, elle se sentit la bouche toute pleine du sang de Jésus-Christ, ce qui lui communiqua tant de douceur qu'elle crut mourir d'amour. « Je vis, écrit-elle, mon divin Sauveur qui me dit, « Ma fille, je veux que ce sang adorable qui te cause tant d'amour soit employé à te sauver. Ne crains jamais que ma miséricorde te manque. Lorsque j'ai répandu ce sang précieux, je n'ai éprouvé que douleur et amertume, mais pour toi, il ne te communiquera que douceur et amour. » Et le curé d'Ars ajoute, plusieurs fois, lorsqu'elle avait le grand bonheur de communier, les anges descendaient en foule du ciel et semblaient faire leur délice de s'unir à elle pour louer le Sauveur qu'elle portait dans son cœur. En somme, il établit sa spiritualité non seulement sur l'Eucharistie, mais aussi sur ce sacrement qui y prépare la confession. Ça vient plus tard. Ce prêtre agenouillé devant le tabernacle, car il s'agenouillait devant le tabernacle, il ne priait pas assis dans son fauteuil près du feu, il priait à genoux dans l'église. Ce prêtre agenouillé devant le tabernacle montre à tous, voisins, passants, habitants d'Ars, que leur église n'est pas vide, que leur foi n'est pas vaine. Il disait, ils reviendront peu à peu. Ils sont revenus, unanimement, ou peut-être 2 ou 3 ou 5 ou 6, d'abord, les jeunes filles que le curé a regroupées, aussitôt, dans une confrérie du rosaire, encore le rosaire, le chapelet, et parmi lesquelles on a distingué, n'est-ce pas, Catherine Lassagne, qui a été une grande confidente, sa pénitente préférée peut-être, une grande amie pour lui, un soutien, c'était une sainte. À elle, il confie une école et bientôt un orphelinat, une providence, et c'est à travers le groupe de ces jeunes filles qu'il mène la guerre, croyez-le, croyez pas, à la danse, au cabaret, qui était conçu comme autant d'antichambres de l'enfer. Bon, il était un, disons, de droite un peu. Bon, les bals cessent, les cabarets ferment l'un après l'autre. Et les jeunes gens se convertissent, oui, oui. Ou bien peut-être qu'ils se résignent, je ne sais pas trop, pour certains d'entre eux. En tout cas, ils ont eu un dernier sursaut de révolte en 1830, et ça a été vaincu. À cette date, M. Vianney a acquis l'appui des parents, qui étaient soucieux d'une espèce de morale typique de cette époque, une morale rigide, étroite, inflexible. Mais est-ce qu'elle est si mauvaise, finalement, si elle aide les enfants à être plus heureux? Bon, il est discutable. Je ne sais pas quoi penser. C'est bien difficile, bien difficile. En tous les cas, les enfants sont devenus sensibles à ces prédications, à ces catéchismes, parce qu'ils comprenaient ce qu'ils leur disaient. Ils aimaient même qu'ils visitent la maison, et le respect humain était donc renversé, comme nous le rapporte Catherine Lassagne, son amie. On avait honte, finalement, de ne pas faire le bien. Imaginez, dans le village d'Ars, on avait honte de ne pas faire le bien et de ne pas pratiquer sa religion, et tout le monde était dans de saintes dispositions. C'est absolument phénoménal. Imaginez la conversion générale qui porte les gens à ce point-là. D'ailleurs, il disait, « Voyez, mes enfants, le bon Dieu nous a donné à chacun notre place. C'est à nous de suivre notre chemin, c'est-à-dire notre vocation. Les uns sont pour être prêtres ou religieux, et les autres pour être dans le célibat ou le mariage. C'est bien là où il y a le moins de saints, on n'en canonise pas souvent. Et d'où vient qu'il y a dans le mariage tant de gens malheureux? C'est que le grand nombre embrasse cet état du mariage sans y être appelé. On se prépare pendant 10 ans pour être prêtre, et on entre dans le mariage indifféremment, en s'y préparant souvent par le péché. » Et le curé d'Ars continue en disant, « Le bon Dieu, en nous donnant telle ou telle vocation, nous accorde en même temps l'abondance de ses grâces pour en bien remplir les fonctions. Si nous manquons cette vocation, nous sommes dépourvus de ses grâces, et alors, il est très difficile de se sauver. » Il n'était pas bête. Renverser le respect humain, la fausse honte, tel fut bien le sens du projet missionnaire du curé d'Ars en sa paroisse. Et le village offrira bientôt aux visiteurs sans cesse plus nombreux ce spectacle étrange d'un îlot de sainteté dans toute la France. Les offices étaient suivis avec exactitude, comme aujourd'hui à Medjugorje. Le respect des commandements de Dieu et de l'Église était observé, l'interdiction des jurements, du travail le dimanche en particulier. Des confréries nombreuses et ferventes, des vies scandées par l'Angélus que l'on récitait avec piété. On priait avant de manger, et après avoir mangé, on récitait le rosaire comme à Medjugorje aujourd'hui. Et M. Vianney, nous rapporte un curé du voisinage, aimait à dire que le salut est plus facile aux personnes de la campagne. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas d'auto, pas de moto, rien. C'était peut-être plus facile, en effet. Et alors, il leur apprenait pour cela, dit ce curé, à prier en travaillant. Et la conversion se vit à Ars sur le mode de l'unanimité. Hein, à peu près 7 ou 8 habitants, sur près de 500 qui ont négligé de faire leur Pâques en 1855. Le 6 août 1823, Jean-Baptiste Marie Vianney a conduit les 2/3 de sa paroisse en procession au sanctuaire de Fourvière, dont je vous ai déjà parlé, au-dessus de Lyon. Ils y sont allés à pied, puis finalement en bateau, le long de la Saône. La naissance du pèlerinage constitue une rupture, un retournement dans la paroisse. Le sens du pèlerinage. Et à la conception tout à fait statique d'un univers clos à Ars, le pèlerinage engendre un appel aux gens de Lyon qui viennent à Ars. Et finalement, toute la France se dirige vers Ars. Vous savez qu'en une seule année, il y a eu 80 000 pèlerins dans ce petit village. C'est incroyable. La légende d'Ars, au sens propre du terme, ce qu'on a dit d'Ars, ça s'est nourri de toutes les nouvelles qu'on annonçait au sujet de ce qui se passait, les pénitences difficiles que le curé s'imposait, mais aussi... Oui, il dormait sans paillasse, il dormait sur des planches. Et il avait fait des multiplications du blé. Il y avait aussi ce fameux grappin, les diableries. Dans des livres sérieux, on les raconte, et je vous assure, croyez-moi, je ne suis pas très facile, ça m'est pas très facile d'accepter ces histoires-là, mais pour le curé d'Ars, j'accepte le fait qu'il y ait eu des bruits terribles dans son presbytère. Ils ont été observés par de nombreuses personnes et des gens très sérieux. Il y avait là des bruits étranges, très curieux, pour le déranger, pour l'assaillir, et même allumer le feu au pied de son lit. Mais son confessionnal, c'est là que se déroulaient les choses les plus phénoménales. Les pénitents l'assiégeaient. Savez-vous qu'il commençait à confesser souvent à minuit? Il confessait toute la nuit. Les femmes dans son confessionnal, les hommes à la sacristie. Il confessait de minuit à 8 heures du matin. Il continuait ensuite toute la journée. Il, Il quittait son confessionnal à 8 heures le soir. Il ne dormait que 4 heures, même pas, puisqu'il priait dans son presbytère. C'était un ministère absolument phénoménal, mais il lisait des vies des saints. Il faisait des catéchismes familiers aux gens. C'est dans les entretiens qu'il avait avec les gens qui venaient le voir qu'il répandait du réconfort, du pardon, un sens de l'existence, car ce qu'il y a de plus pénible pour une grande partie des êtres humains, c'est de ne pas savoir pourquoi ils vivent. Mais avec lui, cet homme si simple, il trouvait des raisons de vivre. Il passait, comme je vous ai dit, 14-16 heures en été à entendre la confession, mais il fallait qu'il prenne aussi le temps de dire sa messe, de prier. C'est pour ça que de minuit à 8 heures le lendemain soir, c'était mêlé de ses petits repas. Un petit repas de vieilles pommes de terre, froides. Il mangeait presque rien. Un peu de pain, il disait qu'il lui fallait du pain. C'était un confesseur extraordinaire. La quête sacramentelle qui est au centre, au fond, de la démarche de tout pèlerin, passe par la confession générale. Et les confessions générales, il en a accepté beaucoup. Une récapitulation, je vous en ai parlé l'autre jour, une récapitulation complète de tous les péchés d'une vie. Oh, c'est pas nécessaire de tout se rappeler dans les moindres détails, mais c'est de faire un nettoyage complet. Et ça affermissait les conversions durables. Il fallait, comme il disait toujours, retourner le respect humain. C'était toujours son projet, ça. Un jeune mondain, d'ailleurs, qui avait de la difficulté à s'afficher comme catholique, eh bien, le curé d'Ars lui demande de se placer au premier rang de la procession qui doit traverser la ville. À une dévote, il lui demande de braver les usages de sa paroisse en communiant tous les dimanches à la messe de 10 heures devant tout le monde, ce qui était très osé dans ce temps-là, communier tous les dimanches. Il fallait communier une fois par mois. Vous savez que dans certaines églises orthodoxes, on communie rarement aussi. Chez les Arméniens aussi, on communie avec un infini respect de l'Eucharistie. On n'ose pas s'approcher trop souvent comme nous, catholiques, qui nous approchons tous les jours. « Malheureuse, dit le curé d'Ars, vous êtes en train de vous damner et de damner les autres, a-t-il dit à la propriétaire d'un bordel de Mâcon. » Il luttait contre les abus, contre les fautes. Il a été d'un dynamisme incroyable. Il y avait des jeunes gens de 20 ans et plus qui finalement étaient admis à communier. Ça prenait du temps pour lui. Il n'acceptait pas n'importe qui à la communion. D'ailleurs, il dit, « Avons-nous médité sur l'amour dont était dévoré le cœur du vieillard Siméon dans son extase ?» Je vous l'ai lu tout à l'heure, ce beau texte. Et je vous rappelle tout l'amour qui règne au creux de cet homme. Et il dit d'ailleurs, quand une âme a reçu dignement l'Eucharistie, elle est tellement noyée dans l'amour, pénétrée et changée, qu'on ne la reconnaît plus dans ses actions, dans ses paroles. Celui, dit Saint Cyrille, qui reçoit Jésus-Christ dans la Sainte Communion, est tellement uni à lui, qu'ils sont semblables à deux morceaux de cire que l'on fait fondre, et qui finissent pour ne faire qu'un. Il ajoute, Saint Paul exprime très bien cette union quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui agis, dit le curé d'Ars, qui pense, mais c'est Jésus-Christ qui agit et qui pense en moi. Notre cœur et notre esprit ne respirent que le ciel. Oh, quelle douce vie que cette vie d'union avec le bon Dieu! C'est le paradis sur la terre. Il n'y a plus de peine, plus de croix. Ô bonheur! Non, non, ce ne sera que dans le ciel que nous le comprendrons. Ô mon Dieu! Une créature enrichie d'un tel don, c'est ce que nous sommes. Il était fou d'amour. À un tournant que l'on ne peut fixer au début des années 40, la pratique de M. Vianney, sous l'influence de son évêque, qui était un précoce promoteur en son diocèse de la théologie morale de Saint-Alphonse de Liguori, dont on a parlé le 1er août. Et suite à plusieurs entretiens avec d'autres prêtres, ça a évolué sensiblement. Et ce ne sont plus les pécheurs qui doivent se rendre dignes du sacrement, mais il se rend compte que c'est le sacrement qui doit contribuer au salut du pécheur. auprès des innombrables pèlerins qui accourent de toutes les parties de la France à lui et même de l'étranger, eh bien le curé d'Ars abandonne les sévérités de sa jeunesse. Il découvre l'effusion, les consolations et cette tendresse qui est la marque de la nouvelle piété qui est venue d'Italie, de Saint-Alphonse de Ligorie. 80 000 personnes qui se pressent chaque année à Ars. Il y a plus de monde qu'à Lourdes, plus de monde qu'à la Salette. C'est devenu le plus grand pèlerinage de France. Il avait, note un témoin, une grande défiance de lui-même, une conviction profonde de son néant et de sa misère. Et depuis une telle crainte des jugements de Dieu, qu'il aurait dit lui-même, « Quand j'y pense, je tremble tellement que je ne puis signer mon nom. » Mais il mourra, apaisé, soumis désormais à ce qu'il considère comme la volonté et l'amour de Dieu.